vous propose de reprendre nos travaux. J'ai la charge difficile de me substituer pour présider cette séance au professeur Antoine Compagnon qui n'a pu venir aujourd'hui comme nous l'a appris Jessica Desclos. Et donc je vais m'efforcer de remplir la fonction de directeur de séance pour ce début d'après-midi. Alors, nous allons écouter maintenant Claire Barbillon, qui est directrice de l'École du Louvre. Elle a été professeure d'histoire de l'art contemporain à l'Université de Poitiers entre 2014 et 2017. Auparavant, elle avait exercé comme maître de conférence dans les universités de Paris, Nanterre et Bordeaux Michel de Montaigne, ainsi que comme directrice des études déjà à l'École du Louvre. Spécialiste d'histoire de la sculpture du XIXe siècle et d'histoire de l'histoire de l'art, elle a co-dirigé avec Philippe Sénéchal le dictionnaire des historiens de l'art actifs de la Révolution française à 1920. En ligne sur le site de l'INHA, vous pouvez y trouver nombre de personnes dont il a été question dès ce matin et dont il sera question cet après-midi. Claire Barbillon a consacré par ailleurs une dizaine d'articles et de communications aux différentes facettes de l'historien de l'art Charles Blanc, un des professeurs au Collège de France dont nous avons commencé à parler ce matin. Les dernières publications de Claire Barbillon sont d'une part un essai consacré à une forme de la sculpture parfois négligée, le relief au croisement des arts du XIXe siècle à Paris chez Azan en 2014, le catalogue de l'exposition Bourdel et l'Antique, une passion moderne organisée au musée Bourdel, dont elle a été commissaire avec Amélie Simier et Jérôme Godot. Le catalogue des sculptures du musée des Beaux-Arts de Lyon, où l'on retrouve Philippe Duret et plus lointainement Henri Faucillon, un catalogue co-dirigé avec Catherine Chevillot et Stéphane Pacou. Enfin, un ouvrage personnel, « Comment regarder la sculpture » aux éditions Azan, également en 2017. Elle a collaboré à la constitution d'une base de données portant sur la stature publique des 19e et 20e siècles à nos grands hommes en ligne depuis 2018 sur le site du musée d'Orsay. Elle va nous parler maintenant de trois grandes figures de professeurs au Collège de France. Il y a tout d'abord Charles Blanc, mais aussi Guillaume et La Fenestre. Je te laisse la parole.
Mes premiers remerciements vont à Jessica Desclos qui m'a invitée et dont la générosité s'est manifestée à de multiples manières. J'y associe bien sûr François-René Martin, ami et complice de près de 20 ans d'enquêtes historiographiques, qui l'a poussé bien au-delà de ce que je saurais faire, et j'ai le plaisir d'y associer également Roland Recht, qui a été le maître d'un certain nombre d'entre nous et qui, dès juin 2004, a eu la générosité de nous associer, il y a donc maintenant 15 ans, à Programme Histoire de l'Histoire de l'Art par le colloque Histoire de l'Histoire de l'Art en France au XIXe siècle, qui avait déjà réuni les deux institutions qui nous tiennent à cœur aujourd'hui, l'École du Louvre et le Collège de France. Il est une caractéristique bien connue au Collège de France, celle de la souplesse de la dénomination des chaires qui se révèle dans leur généalogie. Celle qui nous intéresse n'a pas fait exception au cours du XXe siècle, où elle a souvent changé de terminologie, mais au XIXe siècle, et jusqu'à la Première Guerre mondiale, pendant cette période fondatrice, nous l'avons déjà vu ce matin, la chaire a continuellement, et sous trois professeurs, porté le nom de chaire d'esthétique et d'histoire de l'art. Cette constance, en même temps que cette dualité disciplinaire, a attiré mon attention, mais pas seulement la mienne, comme nous l'avons vu ce matin. Et je vais revenir un instant en introduction sur cette constance, parce qu'on peut la mettre en rapport avec les trois personnalités des professeurs qui se sont succédés, plus rapidement en fait que ne le laisse penser la chronologie des chaires, c'est-à-dire en à peine plus d'une décennie. On connaît la brièveté de l'enseignement de Charles Blanc, pour qui est créée la chaire en 1878, mais qui meurt le 17 janvier 1882 et cesse d'enseigner quelques mois avant sa disparition. Eugène Guillaume, qui lui succède, décède pour sa part en 1905 et reste titulaire de sa chaire jusqu'à sa mort, mais il cesse en fait d'enseigner en mai 1889 et son suppléant, Georges Lafenestre, prend le relais, attendant 15 ans pour être nommé lui-même professeur en titre. Donc, en 11 ans, 3 enseignants pour choisir une terminologie neutre, mais juste, puisque le statut de la fenêtre n'est alors pas le même que celui des 2 autres éminents professeurs, 3 personnages se succèdent, donc, avant que ne commence ce que je pourrais appeler le règne de Georges Lafenestre, auquel Jessica Desclos va consacrer juste après moi sa communication. Donc c'est cette première décennie un peu élargie de la chaire qui m'intéresse à présent et qui invite à se poser une question liminaire fondamentale. Pourquoi ces 3 hommes? Pourquoi eux et non d'autres, au sein d'un milieu en pleine constitution, celui de l'histoire et de la théorie de l'art en France? Et pour en revenir au nom de la chaire, pourquoi cette première place accordée à l'esthétique et comment s'articule-t-elle à l'histoire de l'art? La reprise de la formulation de l'École des Beaux-Arts ne suffit pas à expliquer ce choix. Nous avons déjà entendu un certain nombre d'éléments de réponse ce matin et je chercherai peut-être à déplacer un peu le curseur. À la question des acteurs, on apportera 2 types de réponses. L'un, de l'ordre de l'histoire politique et institutionnelle de l'art, met au jour les liens très étroits qui unissent les 3 personnalités. L'autre, plus clairement historiographique, résulte de l'examen de leurs choix intellectuels, de leurs méthodes. Ainsi se révèle la permanence d'une prévalence de l'esthétique sur l'histoire de l'art chez les 2 premiers, je veux dire Blanc et Guillaume, on tentera d'en comprendre les raisons, et son évanouissement progressif chez le 3e. Avant cela, je crois utile de les présenter. Non pas tant avec la rigueur prosopographique qui a pu être celle de Christophe Charles et d'Eva Teclès dans leur somme consacrée aux professeurs du Collège de France, publiée en 1988, mais pour tenter de comprendre la personnalité intellectuelle de ses fondateurs, cerner leur convergence, en déterminer aussi les limites. Car ce qui frappe d'emblée, et chez les 3 hommes, l'omniprésence dans le champ institutionnel, le cumul des fonctions, dirait-on aujourd'hui, assorti du caractère éclectique d'une production intellectuelle qui permet de les qualifier de polygraphes. Pour Charles Blanc, je commencerai par citer André Chastel. « Le fondateur de la Gazette des Beaux-Arts, écrivit-il, a été à la fois l'historien et le théoricien le plus écouté du XIXe siècle. » Faire le portrait de Charles Blanc, c'est assembler les morceaux d'un puzzle, sans négliger la cohérence générale d'une existence engagée dans de nombreux combats et conquêtes. Charles, né à Castres le 15 novembre 1813, est tout d'abord le frère de Louis, qui fut de 2 ans son aîné et auquel il demeura toute sa vie très étroitement lié. Ensemble, ils arrivèrent à Paris après la Révolution de 1830 et commencèrent une carrière dans le journalisme. Mais alors que Louis se tournait vers la politique, Charles étudiait la gravure, notamment dans l'atelier de Kalamata. Ensemble, ils fréquentaient les milieux républicains. Charles écrivait souvent des articles de critique d'art dans les mêmes revues que son frère, en particulier lorsque ce dernier fonda le journal Le Progrès, le journal du Progrès, en 1839. Lorsque Louis s'imposa en février 1848 au gouvernement provisoire, fit décréter l'abolition de la peine de mort, proclama le droit au travail et affirma sa confiance en un État socialiste qui seul pourrait procurer à chacun selon ses besoins, Charles fut nommé directeur de l'administration des Beaux-Arts. Très actif pour soutenir les commandes et les allocations qui permettraient à bien des artistes de survivre, il, je cite, « arriva à point dans toute la verdeur de l'âge et de l'esprit et poussé par ce qu'il y avait de généreux dans le vent révolutionnaire d'alors, pour servir la jeune école et réparer les torts que lui avaient été causés par les proscriptions de l'ancien jury des salons. » Cette citation vient de Philippe de Chenevière qui ne débordait pourtant pas de sympathie à son égard. Après 1850, Charles Blanc se consacra pleinement à l'histoire de l'art, cherchant à donner une dimension encyclopédique à l'histoire des peintres français du XIXe siècle qu'il avait publié sans l'achever en 1845. Ce fut l'immense projet auquel il associa quelques collaborateurs de l'histoire des peintres de toutes les écoles depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, suite de monographies publiées entre 1849 et 1876 par livraison successive grâce à un système de souscription permanente. Il s'agit d'ailleurs, la caricature de droite vous montre Charles appuyé sur ces volumes. Il s'agissait pour Charles Blanc d'histoire de l'art et non pas de critique, Tout en restant fidèle à la tradition vasarienne des vies, il organisait les éléments bibliographiques selon une structure méthodique et systématique qui visait à en assurer l'efficacité pédagogique. Charles Blanc rédigea nombre d'autres ouvrages d'histoire de l'art pendant cette période et fonda en 1859 la Gazette des Beaux-Arts, dont il fut le rédacteur en chef pendant une très longue période. Son nom y reste d'autant plus attaché qu'il y publia abondamment jusqu'en 1880, en particulier de futurs ouvrages proposés aux lecteurs, d'abord sous forme de livraisons successives. Ainsi, sa monographie Ingres, sa vie et ses ouvrages, mais aussi les deux livres de théorie et d'esthétique qui lui valurent un renom qui perdure encore aujourd'hui, la fameuse Grammaire des arts du dessin, publiée finalement en volume séparé en 1867, et son pendant, la Grammaire des arts décoratifs, que la mort empêcha son auteur d'achever. Comme l'a rappelé mon collègue et ami François-René Martin, j'ai beaucoup fréquenté Charles Blanc et je suis arrivée à la claire conviction qu'il y a eu dans la vie de cet homme un événement pivot, une véritable secousse sismique avec comme en géologie une réplique. Il s'agit de deux voyages. Le premier en Grèce fut effectué par Charles Blanc en 1860. Pour l'entreprendre, cet érudit, qui n'avait pas de fortune, vendit sa bibliothèque, son bien le plus cher. Le second fut le voyage en Égypte de 1869 à l'invitation du Khédive Ismail Pacha qui fêtait, en présence de l'impératrice Eugénie, l'ouverture du canal de Suez. Intellectuellement, ces deux voyages ont entraîné un virage puissant, un désir d'ordonner les principes du beau, de construire une théorie esthétique formelle et idéaliste sur laquelle je me suis attardée ailleurs. J'avais connu Rome, j'ai reconnu Athènes. Cet apologue de Charles Blanc fonda le projet de fournir à l'art sa grammaire. Académicien dans la section des Beaux-Arts, il fut une deuxième fois appelé à la direction des Beaux-Arts après la chute de l'Empire. Il tenta alors avec Adolphe Thiers, qui était à l'origine de ce projet, d'organiser un musée des copies destiné à rendre compte par ce moyen des plus hauts chefs-d'œuvre de l'art universel. Sa réalisation fut interrompue, puis abandonnée dès qu'il eut quitté la direction à la fin de 1873. Il en ressentit beaucoup d'amertume. Les deux grands moments de sa consécration, dans la toute dernière partie de sa vie, furent son élection à l'Académie française, le 8 juin 1876, et sa nomination à la chaire qui nous intéresse au Collège de France en 1878. Le décret date, je crois, du 26 mars. Son successeur fut Eugène Guillaume, né à Montbard en 1822 et mort à Rome en 1905, qui connut une carrière exceptionnelle en ce qu'il sut conjuguer une abondante production sculptée, des écrits d'histoire et de théorie de l'art nombreux, bien qu'aujourd'hui méconnus, un rôle institutionnel considérable et une activité d'enseignement qui ne le fut pas moins. Magistrat, le père du sculpteur aurait souhaité que son fils embrassât une carrière juridique, mais le jeune homme fréquenta l'école de dessin de Dijon, parti pour Paris à l'âge de 19 ans, fut l'élève de James Pradier à l'école des Beaux-Arts, emporta le prix de Rome en 1845. De la Villa Médicis, il expédia plusieurs travaux qui illustrent sa fidélité profonde à l'antique et aux principes académiques. Ainsi, le double buste du cénotaphe des Gracques, dont un marbre a figuré à l'exposition universelle de 1889 à Paris, c'est dire qu'il avait traversé une partie du siècle, inaugurait chez le jeune sculpteur le néoclassicisme sévère qui demeure une de ses principales caractéristiques. L'année suivante, le faucheur rivalise dans la parfaite maîtrise des proportions du nu avec le gladiateur Borghese, auquel il se réfère implicitement. Enfin, son dernier envoi en 1851, Anacréon présente une figure assise en marbre avec une grande élégance. Une fois revenu en France, Guillaume connaît, sous le Second Empire et la Troisième République, une carrière brillante et représentative des sculpteurs régulièrement sollicités par la commande publique. Je passe sur les nombreux travaux de commande publique de Guillaume. On le retrouve dans toutes les collections françaises. Je signale simplement la nymphe Castalli, qui illustre dans les collections lyonnaises une tendance majeure du sculpteur et une de ses dernières à représenter la mythologie et les figures antiques. La carrière du sculpteur fut parallèlement celle du professeur, puis directeur de l'École des Beaux-Arts, pendant 15 ans, entre 1863 et 1878, successivement donc professeur et directeur. Inspecteur général de l'enseignement du dessin en 1872, brièvement directeur des Beaux-Arts entre 1878 et 1879, titulaire de la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art au Collège de France, où il succéda en 1882 à Charles Blanc. Il fut aussi professeur de dessin à l'École polytechnique à partir de 1887 et il avait été élu en 1862 à l'Académie des Beaux-Arts, puis en 1898 à l'Académie française où il occupa le siège laissé vacant par le duc d'Aumale. Il avait remplacé, pour ajouter à ce pédigré incroyable, le peintre Hébert à la direction de l'Académie de France à Rome à partir de 1891. Il demeura d'ailleurs à Rome jusqu'à la fin de sa vie. Il laissa une production écrite de trois ordres. Critique d'art, il rédigea des salons, notamment de 79 à 82. Un commentaire des arts et en particulier de la sculpture à l'exposition universelle de 1900, toujours dans la Gazette des Beaux-Arts. En tant qu'historien de l'art, il publia notamment en 1876 une monographie consacrée à Michel-Ange sculpteur avec un an de retard sur le quatrième centenaire de la naissance du sculpteur, des études d'art antique et moderne en 88, un recueil d'études sur l'histoire de l'art en 1900. Le domaine dans lequel il laisse cependant l'œuvre la plus abondante est la théorie de l'art. Ses principales contributions dans ce domaine sont en 1886 un article intitulé « De l'esthétique dans l'enseignement de l'art » et en 1896 des essais sur la théorie du dessin et de quelques parties des arts qui développent et justifient les grands principes du néoclassicisme qu'on peut qualifier de tardif. Il valorise la référence à l'antique, la prévalence du dessin et les théories de proportion. Arrivons maintenant au troisième de nos héros du jour, Georges Lafenestre. Les nombreuses notices biographiques ou nécrologiques qui lui furent consacrées témoignent une certaine difficulté à résumer la vie professionnelle du personnage. Ainsi, la notice du Nouveau Larousse en 8 volumes le nomme-t-il « littérateur français », alors qu'une autre, demeurée manuscrite dans les archives du Collège de France, met en relief les fonctions de conservateur au musée du Louvre avant celles de professeur. Tout cela diffère encore des qualificatifs d'historien, critique et administrateur d'art, mise en exergue par une enquête historiographique récente, La promenade du critique influent, anthologie de la critique d'art en France, entre 1859 et 1900, sous la direction de notre collègue Jean-Paul Bouillon. La notice nécrologique que lui consacre, conformément à la tradition, le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, qui est alors l'organiste et compositeur Charles-Marie Vidor, campe dès la première phrase La Fenestre en poète. On y découvre l'enfance un peu solitaire d'un jeune orphelin, soutenu par la générosité de l'ancien associé de son père. Il entreprend des études de droit, mais ses premiers articles touchent à la critique d'art, ce qui ne semble étonner personne. À 22 ans, il entreprend son premier voyage en Italie. C'est le début d'une longue série. Il croise à Florence des artistes et des poètes, parmi lesquels Delaunay et Chenavard, qui portent une ambition de renouvellement de la peinture d'histoire. Il croise José María de Heredia, poète parnassien, tenant de l'art pour l'art. Sa parenté avec ce courant littéraire est encore renforcée par la fréquentation à Paris de Lecomte de Lisle, de Sully Prudhomme et même de Verlaine. Le premier volume de vers de Georges Lafenestre paraît en 1864, alors qu'il a 27 ans. Le dernier, un an avant sa mort, en 1918. Il ajoute à sa carrière littéraire un roman et un drame en vers destiné au théâtre, Jeanne d'Arc. De cette production limitée et qui demeure bien qu'honorable de second plan, il évolue sans difficulté vers l'histoire de la littérature et publie deux études, l'une consacrée à La Fontaine, l'autre à Molière. Il n'est pas rare depuis le XVIIIe siècle d'observer un glissement qui conduit de la production littéraire à la critique littéraire, puis à la critique d'art, et enfin de là à l'histoire de l'art. C'est ce qu'observe Vidor. Lettré comme il était naturel que déjà poète et romancier, Lafenestre devint également critique littéraire. Après avoir commenté son talent dans ce domaine, le biographe enchaîne avec les critiques de salon, puis sans transition avec les contributions de Lafenestre au projet de Charles Blanc, l'histoire des peintres. Sa participation concerne des artistes des écoles milanaises, lombardes, ferraraises, génoises et napolitaines. C'est à partir de 1881 que se multiplient les contributions de Georges Lafenestre à l'histoire de l'art, et plus exactement à la peinture. Le bilan historiographique que l'on pourrait faire de son œuvre mêle du reste critique et histoire de l'art. Je vous passe les titres de ces productions qui deviennent quasiment annuelles à ce moment-là et qui concernent presque toute la peinture italienne et la peinture française. Ce portrait serait gravement incomplet si on n'y ajoutait pas l'évocation des responsabilités successives et des fonctions officielles qui furent celles de Georges Lafenestre. Attaché au cabinet du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts en 1870, sous-chef du bureau des Beaux-Arts en 1871, chef du bureau des Arts en 1876, inspecteur des Beaux-Arts en 1880, conservateur adjoint des peintures et des dessins ainsi que de la calcographie au musée du Louvre en 1886, professeur cette même année à l'école du Louvre, conservateur du département des peintures et des dessins en 1888, professeur suppléant au Collège de France dès 1889, avant d'être titulaire de la chaire à partir de 1905. Membre enfin de l'Académie des Beaux-Arts à partir de 1892, conservateur enfin du musée Condé de Chantilly en 1909. Il ne manque que l'Académie française, vous l'avez noté. Je vais maintenant essayer de passer à la partie qui, j'espère, est la plus intéressante de mon petit propos, qui est, d'une part, d'essayer de comprendre les proximités, les croisements, en gros le réseau qui se noue entre ces trois hommes, avant d'assister ensuite sur le contenu de leur enseignement. Ces trois hommes, dont le plus fort des liens nous apparaît aujourd'hui comme être celui de s'être succédé à la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art du Collège de France, entretinrent des proximités de divers ordres. On voudrait revenir un instant sur un étonnant parallélisme de carrière, et d'autre part sur leurs collaborations effectives. Nés respectivement en 1813, 1822 et 1837, ils sont, malgré ces différences d'âge, pleinement des hommes du XIXe siècle. Leur formation est dans les trois cas assez éloignée des cursus académiques érudits, tels que l'École normale ou celle des Chartes. Le jeune Blanc étudie la gravure, le jeune Guillaume la sculpture et devient sculpteur, le jeune Lafenestre entre en littérature par la poésie. Ils pratiquent tous les trois la critique d'art, Blanc fonde la Gazette des Beaux-Arts, Guillaume et Lafenestre y publient. Ils publient également tous les trois des monographies. Dans l'histoire des peintres de toutes les écoles pour Lafenestre, ce qui fait un lien direct entre lui et Blanc malgré l'écart d'une génération. Quant à Blanc et Guillaume, ils ont pour leur part collaboré au fameux numéro de la Gazette sur Michel-Ange de 76, auquel je faisais allusion tout à l'heure. La chronique des arts et de la curiosité de 77 en annonce d'ailleurs une publication sur papier de luxe, autant dire que l'œuvre avait connu un vrai succès. Et je note, en plus de tout cela, que le catalogue du musée de Montbard en 1911 mentionne un buste de Blanc par Guillaume. Mais le plus saisissant parallèle entre les trois carrières vient de l'accumulation de fonctions officielles et de l'engagement institutionnel des trois personnages. Tous trois hommes d'État, ils ont exercé des fonctions essentielles pour la vie artistique du pays. Tous trois ont accédé à la reconnaissance plus que symbolique au XIXe siècle que constituait l'accès à l'Académie des Beaux-Arts, même si seuls Blanc et Guillaume ont franchi l'échelon suprême de l'Académie française. Le temps dont je dispose m'incline à me concentrer sur la décennie des années 70 qui s'achève avec la création de la chaire. Elle est particulièrement riche en liens entre les trois hommes. Charles Blanc et Guillaume sont chacun un temps directeur des Beaux-Arts, séparés par Chenevière, et sont souvent liés dans leurs fonctions. Par exemple, quand Blanc est directeur des Beaux-Arts en 1870 et que Guillaume est pour sa part à la tête de l'École des Beaux-Arts. Lafenestre n'est jamais loin des précédents. On le retrouve pendant cette décennie, comme on vient de le noter, attaché au cabinet du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts en 70, sous-chef de bureau en 71, chef du bureau des Beaux-Arts en 76. Cette imbrication des trois destins s'incarne dans le cœur même de la vie de la chaire du Collège de France. La correspondance de Guillaume, conservée avec un ensemble important d'archives au musée d'Orsay, fait apparaître une forte amitié entre le sculpteur et le ministre de l'Instruction publique Agénor Bardou, qui occupe ce poste à partir de décembre 1877. Le décret de la création de la chaire est daté du 26 mars, alors que Bardou ne nomme Guillaume à la direction qu'en mai. Chennevière, avec son ironie coutumière, évoque la séduction extrême qu'exerçait Guillaume sur Bardoux. Nul doute que le ministre n'ait consulté son ami et futur directeur pour la nomination de Charles Blanc. Je pense donc que Charles Blanc doit sa nomination à Guillaume, curieusement. Nul doute que ce dernier ne l'ait su, ou du moins fortement subodoré. La leçon d'ouverture du cours d'esthétique et d'histoire de l'art faite au Collège de France le 4 décembre 82 par Guillaume et à laquelle il a été longuement fait allusion ce matin n'est qu'un long hommage de Guillaume à son prédécesseur, dont il fut sans doute aussi le protecteur. Quant à la fenêtre, il se présente aux côtés de Guillaume, mais aussi de Jem Munz et d'Etex, le sculpteur Antoine Etex, sans compter un outsider du nom de Gene Gallo, à la succession de Charles Blanc. Son échec sera largement compensé par la longévité de son occupation future de la chaire, comme nous l'avons dit, 16 ans comme suppléant, presque autant comme titulaire. Examinons enfin les orientations et les méthodes des professeurs pendant les premières années de la chaire, car c'est une autre manière de tenter de répondre à la question que je posais en introduction, pourquoi ces trois hommes-là et pas d'autres, et de comprendre ce qui les liait sur un plan intellectuel sans doute, et ce qui correspondait, mais ça je n'aurai pas le temps d'en parler, probablement aux attentes du public. Il faut revenir aux candidats malheureux pour donner du relief au triumvirat composé par Blanc, Guillaume et Lafenestre. Blanc, on l'a dit, n'eut pas de compétiteurs. Chennevière et Brunetière insinuent d'ailleurs que la chaire a été créée pour lui être agréable. Guillaume l'emporta sur Munz, Lafenestre et un deuxième sculpteur, Antoine Etex, sans compter Gallo. Olivier Rayet, dont on parla un temps, ne se présenta finalement pas, certainement parce qu'on lui fit comprendre que cette chaire n'était pas faite pour lui, puisqu'il était archéologue, et que par ailleurs, à l'école du Louvre, on l'a vu tout à l'heure avec Philippe Duret, l'archéologie avait, en tout cas temporairement, un règne absolu dans ses premières années. D'aucuns regrettèrent, comme Brunetière, que je cite, que Taine n'ait pas réclamé cette chaire comme son bien. Pourquoi ne se présenta-t-il pas ? La filiation entre Guillaume et Blanc, à mon avis c'est une réponse, était tellement évidente qu'il en fut peut-être découragé. C'est en tout cas mon hypothèse. C'est aussi ce qui explique probablement l'échec de Munz, malgré la puissante originalité de ses hypothèses herméneutiques et de ses productions. En 1905, ce fut le tour de Lafenestre. Il l'emporta sur Émile Malle, sur Pierre de Nolhac, sur Edmond Potier et sur Paul Souriot, oublié du reste par l'intérien. Si la spécialité archéologique de Potier peut expliquer son éviction, Malle avait plus que fait ses preuves et avait déjà largement publié ses premiers ouvrages fondamentaux. Alors, on peut considérer que les services rendus à la chaire pendant 16 ans par Lafenestre ont puissamment pesé sur son élection, mais on peut aussi considérer qu'il était le plus à même de respecter ce fameux lien entre esthétique et histoire de l'art dont Émilie a parlé. J'attire votre attention sur ce brouillon trouvé dans les archives grâce à l'amabilité de Jessica, dans lequel on voit ce qui est d'ailleurs souligné par l'auteur et pas par moi, l'importance de cette chaire à titre double, esthétique et histoire de l'art. Dans ce texte, que je n'ai pas le temps de commenter, il apparaît que Lafenestre est le plus à même de conserver cette tradition. Il y a également donc ce fil qui me paraît extrêmement important. Et j'avais également apporté la citation de Brunetière, mais alors que cette fois, sur laquelle je vais passer très vite, parce que c'est exactement sensiblement la même que celle que vous avez montrée ce matin, qui appuyait cette nécessité de placer au Collège de France ces disciplines, cette discipline nouvelle, cette esthétique qui apparaissait comme le premier sujet dont il fallait s'emparer. Mais quelle esthétique ? Le problème est vraiment celui-là, quelle esthétique ? Il ne s'agit évidemment pas d'une esthétique allemande. Il s'agit de cette discipline mouvante, pas encore vraiment définie, mais il me semble que la réponse à cette esthétique à la française, c'est la meilleure réponse qu'on y trouve, si vous voulez, est justement celle de la définition que Guillaume en donne dans sa leçon d'ouverture, qui est cet hommage à Charles Blanc dont je parlais tout à l'heure. Cette leçon donc d'ouverture du cours d'esthétique du 4 décembre 1882. Guillaume s'étonne qu'une chaire d'esthétique n'ait pas été créée plus tôt dans le siècle pour Victor Cousin. Mais je ne crois pas qu'on a dit ce matin la raison qu'il donne pour finalement accepter le fait qu'elle n'ait pas été créée à cette époque. Il pense que c'est le romantisme qui rendait incompatible la création d'une chaire d'esthétique. Il est intéressant de voir cette opposition entre les deux, parce qu'elle est riche d'enseignements, puisque l'esthétique en fait prônée par les deux hommes, Blanc et Guillaume, est essentiellement néoclassique. Le petit exposé qui suit dans cette leçon de Guillaume, ce petit exposé sur l'esthétique, rappelle furieusement, presque littéralement, celui de Charles Blanc dans la préface de La grammaire des arts du dessin, dont il faut rappeler qu'elle commence à être publiée par livraison dans la Gazette des Beaux-Arts en 1861. C'est donc un livre singulièrement vieux de plus de 20 ans, mais auquel il est fait encore allusion de manière extrêmement claire. C'est vraiment le livre qui, à mon avis, a servi de fondement à cette esthétique des deux hommes. Et je voudrais montrer ici que dans le récit que fait Guillaume de ses premiers cours, du détail de ses premiers cours de Charles Blanc, dont on ignore, dont les archives ne mentionnent pas les leçons une par une, eh bien, on trouve, et c'est pour ça que cette première leçon de Guillaume est si précieuse, on trouve la liste des sujets enseignés par Charles Blanc pendant la première année pleine de cours, l'année 1878-79, et je me suis amusée à mettre ces cours en parallèle du plan de la première partie de la grammaire des arts du dessin, celle qui est appelée « Principe », et vous voyez à l'évidence que Charles Blanc s'inspire de lui-même. Alors, on ne peut pas le lui reprocher. C'est une sorte d'autoplagiat à 20 ans de distance. Il faut mettre ça aussi en rapport avec le fait que Charles Blanc était un homme âgé quand il arrive à la chaire et qu'il était aussi couvert d'autres responsabilités. Quoi qu'il en soit, à l'évidence, il ne fait que décalquer les principes qu'il avait détaillés dans la grammaire des arts du dessin, et c'est ces principes de cette esthétique grammairienne, que je qualifierais d'esthétique grammairienne, puisqu'il veut donner une grammaire aux arts, une grammaire à la compréhension des arts nécessaires aux Français, dont il déplore évidemment le manque d'outils pour apprécier l'art de leur temps. C'est donc cette grammaire qu'il donne ici à comprendre à ses auditeurs. Guillaume, pour sa part, après cette leçon d'ouverture, consacra ses premières leçons à des notions qui relèvent également pleinement de l'esthétique qu'il considérait comme une sorte de terreau fondamental. Et là, je rends hommage au travail d'une de mes étudiantes, Marie Passera, qui a soutenu l'année dernière un mémoire de master à l'École du Louvre consacré au traitement d'un certain nombre de papiers conservés dans le fonds Eugène Guillaume du musée d'Orsay, et qui a fait un relevé extrêmement précis, que vous distinguez à peine, des thèmes des premières leçons de Guillaume. Et dans ces premières leçons de Guillaume, ce que l'on voit, c'est une structuration qui, elle aussi, est purement formaliste, n'est absolument pas historique, et surtout qui, à partir de 1984, est structurée exactement comme la grammaire des arts du dessin, en traitant des trois arts majeurs dans l'ordre architecture, sculpture, puis peinture, en les abordant par genre, par typologie de technique, par classement formel, de manière la plus éloignée possible d'une périodisation historique. Ce qui reste de cela dans les leçons de La Fenêtre, qui commence en 1889, et outre de très oratoires protestations de fidélité à Charles Blanc et à Guillaume, c'est assez peu de choses finalement. C'est après 5 années consacrées au XVe siècle italien et 2 au XVe siècle français, une série de cours intitulée « Histoire de la beauté », professée à partir de 1895. Mais la méthode annoncée par l'historien de l'art et conservateur est beaucoup plus attachée que celle de ses prédécesseurs à l'examen des œuvres et à ce qu'il considère comme une histoire de l'art expérimentale, selon les termes de sa propre leçon d'ouverture au Collège de France pour la suppléance de Guillaume. Je laisse à Jessica Desclos son analyse. En conclusion, le phénomène d'appropriation de la grammaire des arts du dessin, son exploitation quasi littérale par son auteur dans les cours qu'il dispense, faut-il le rappeler au soir de sa vie, est moins étonnante que celle dont témoigne Guillaume. Elle montre toutefois dans les deux cas, en même temps que l'immense influence de cette grammaire, une sorte d'anachronisme ou plutôt d'immobilisme. Les théories conçues en 1860 s'étaient largement répandues par la diffusion de l'ouvrage d'esthétique pratique le plus important que produit notre pays, selon les termes de Guillaume, mais d'autres expressions de la philosophie de l'art En tout premier lieu, celle de Taine, s'était diffusée en France, sans compter la vigueur au-delà des frontières, en particulier outre-Rhin, comme l'a montré ce matin François-René Martin, des dialogues entre les historiens de l'art qui travaillaient de manière concomitante en ce dernier quart, en ces deux dernières décennies du XIXe siècle. La cohérence de l'esthétique idéaliste et classique des premières années de la chaire du Collège de France exprimait au fond, à mon avis, une sorte de résistance, l'expression d'un idéal grammairien affirmant la primauté de la forme. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Claire, pour cette communication qui, à mon sens, nous apprend énormément, à la fois sur les personnages, mais aussi sur la chaire et les logiques qui conduisent à y accéder, la chaire d'histoire de l'art, d'esthétique pardon, et d'histoire de l'art du Collège de France. Je voudrais juste peut-être tirer deux, trois fils avant de laisser la parole à l'auditeur pour des questions. Déjà, il y a une première chose qui me paraît très, très importante, c'est les solidarités qu'on ne soupçonnait pas, avant que tu n'en parles, entre les trois personnages. Des solidarités qui tiennent, d'une part, à des fonctions officielles, comme tu l'as dit, des fonctions officielles très importantes, au bon sens du terme, qu'ils ont tous les trois exercées. Ça, c'est une première chose. Il y a une sorte aussi de néoclassicisme latent que l'on peut trouver chez les trois. Ça, c'est un autre point. Moi, j'aurais tendance peut-être à suggérer d'y ajouter une autre chose, mais peut-être que là, tu me démentiras ou d'autres personnes dans l'auditoire nuanceront ou contesteront. Hein. Il me semble qu'il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre d'une attitude artiste ou une attitude d'écrivain qui est partagée par les trois. Guillaume est un artiste, comme tu l'as répété, ce n'est pas indifférent. Il y a l'histoire de l'art des artistes, ce n'est pas l'histoire de l'art des historiens de l'art. Ça, c'est un premier point. Les deux autres sont, au fond, écrivains. Charles Blanc a une attitude d'écrivain, une posture d'écrivain. C'est également manifeste pour La Fenêtre. Et avant 1900, il me semble que c'est quelque chose qui est très important. C'est un ingrédient fondamental pour être un grand savant. Un savant, pour être un grand savant, doit être également doublé d'un écrivain. La personne qui a le mieux montré ça pour la situation française, c'est sans doute Wolf Le Pénis dans son grand livre sur les trois cultures. Les choses changent après 1900. Avant 1900, il me semble que c'est une condition pour accéder à des charges aussi importantes. Un dernier point, je mesure aussi combien, et c'est une chose que je n'avais pas vue quand j'avais travaillé sur l'exposition de 1904, quand on croise les cours de La Fenêtre et ceux, par exemple, d'un Fourcault à l'École des Beaux-Arts, l'un et l'autre, autour de 1900, La Fenêtre un petit peu avant, mais Fourcault en 1902-1903, font cours pendant un an sur les primitifs français. Là où on pensait que la bataille s'était jouée sur une séquence très courte entre Bruges et Paris, il me semble qu'il y a en réalité une histoire un petit peu plus longue que je n'avais pas vue et qu'il faudrait sans doute reprendre. Nos travaux aujourd'hui, en tout cas, nous permettent de mieux le comprendre.
Merci Claire pour ce très bel exposé. J'avais juste une remarque à faire à propos de La Fenêtre. Vous disiez à l'instant, François Rollet, qu'il n'était pas artiste, il était poète. Et le fait qu'il soit poète, et il lisait ses poèmes dans des milieux des cercles, des cénacles, de Villiers de l'Isle-Adam, François Copé, etc., le connaissait, n'est quand même pas sans importance. C'est-à-dire l'écriture artiste à cette époque a une très grande importance, en effet, l'écriture que vous signaliez. Mais le fait de ne pas être sculpteur ou peintre n'est-il pas compensé par cette gloire littéraire qu'il a connue avant ? Mais enfin, bon, il continue d'écrire. Mais ce que je voulais faire remarquer, alors pour enchaîner avec votre remarque, et c'était ma première question, ma seule question à Claire, La Fenêtre a été nommé à l'école du Louvre, quand Courageau y rencontrait un succès, le succès qu'on sait. Avant même. Non. En tout cas, le succès de Courageau a complètement éclipsé le succès que vous avez rencontré, La Fenêtre. Mais dans ces moments-là, La Fenêtre enseignait sur l'histoire, en fait sur la version peinture de ce que faisait Courageau sur essentiellement la sculpture. Il enseignait sur la fin du Moyen-Âge, ce qui n'est quand même pas négligeable. Parce que le fait de dire qu'il y a là une sorte d'idéal néoclassique qui domine ces trois figures, ce qui me paraît tout à fait vrai, il faut quand même nuancer. Par moments, apparaissent des intérêts pour le Moyen-Âge. Et certes, pour la première période du Moyen-Âge, qui est en fait étudiée dans l'historiographie, ça, c'est évident, On n'a pas commencé pour le XIIIe siècle, on a commencé surtout par le XIVe et XVe. Mais ça me paraît important de voir ce double intérêt. Alors finalement, ça rejoint ce qui s'est passé déjà au début du siècle. Aussi bien Séroux, d'Agincourt, Lenoir, tous ces gens-là ressuscitaient le Moyen-Âge d'une certaine manière. Mais c'était avant tout des gens passionnés par le classicisme. Enfin, c'est l'art véritable, c'était l'art des anciens. C'était pas l'art du Moyen-Âge. Et je crois que ce double intérêt est intéressant de voir comment il se perpétue chez ces personnages-là.
Tout à fait. Le lien, à mon avis, indissoluble, ce que m'a permis de découvrir cette petite recherche, c'est surtout le lien Blanc-Guillaume. Là, il y a vraiment une consanguinité absolue, à la fois du point de vue des idéaux, des choix pédagogiques, de cette espèce de révérence pour une Grèce éternelle et dans laquelle se serait incarné le beau de manière définitive, finalement une lecture un peu abattardie de Winckelmann, alors que chez La Fenêtre, les choses sont quand même différentes. La seule chose, c'est qu'on peut être frappé par cette chronologie des cours de La Fenêtre qui démarre très tôt et qui fait que le Moyen-Âge apparaît assez tard, finalement, dans ses leçons, dans la chronologie de ses leçons. Enfin, pas vraiment, mais on sent que c'est un Moyen-Âge classique qui l'intéresse. Alors que sa victoire sur Émile Malle, c'est aussi significatif, probablement, de ce côté polygraphique. C'est-à-dire qu'il y a un mot au XIXe siècle, pour revenir à votre première remarque, qui est beaucoup plus employé qu'aujourd'hui et qui est considéré comme un éloge, c'est d'être un polygraphe. Ces trois hommes sont des polygraphes et ils sont vraiment pas du tout comme nous obsédés par la spécialisation ni même par l'érudition. L'important, c'est l'amplitude de leur champ. Et c'est vrai que pour moi, il y a un parallèle que je fais de manière assez tranquille entre un blanc graveur, bien sûr, Guillaume sculpteur toute sa vie avec une autre amplitude, et un La Fenêtre poète. Là-dessus, c'est vraiment comme ça que j'ai considéré les trois personnages, et probablement ça avait une importance pour leur auditoire, et ça avait une importance pour la confiance qu'on leur accordait dans la manière de transmettre une vision de l'esthétique et de l'histoire de l'art.